C'est bon, t'enregistres et maintenant je vais pouvoir dire plein de conneries.
Oh, ça peut être intéressant ça.
Ouais.
Cette FM, c'est bien. La radio nantaise et ses alentours.
Bendo la bendo.
J'aime bien cette FM.
Je suis avec mes potos à la radio et ouais. C'est rigolo.
Française, français, mes chers compatriotes, l'épidémie de Covid-19 est devenue une réalité.
Boost, boost en confinement.
Les enfermés vont te faire vibrer.
We have some.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Enfermés. Nous sommes 20 volontaires en service civique et nous travaillons sur des actions de solidarité. Certains auprès de personnes âgées, d'autres auprès de réfugiés ou encore au service de personnes en précarité. Nous nous sommes retrouvés tous les vendredis pour réfléchir et mettre en mots des sujets qui nous préoccupent en tant que jeunes. Nous vous parlerons de harcèlement, mais aussi de questions d'orientation, de place de l'humain dans la société, des jeunes en particulier.
Le confinement ne nous a pas démotivés, nous a même permis de nous réinventer et on espère que nos créations vous plairont, sauront vous capter.
Passons à présent à la première partie de notre émission avec Juliette, Clara, Félix, Sofiane et Lucie qui ont choisi de vous parler de harcèlement. Manon, Lucie, Kevin et Maëlle ont réalisé une fiction sonore pour introduire cette partie. Bonne écoute sur DTFM.
Mademoiselle. Mademoiselle. Hey, mademoiselle. 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 Hey, mademoiselle.
Nous sommes en guerre.
Les enfermés vont me faire vibrer.
Peut-être que t'as été odieux. Ou peut-être que t'as juste vu ce qui s'est passé. Peut-être que tu t'es même pas rendu compte que t'avais été odieux. Ou peut-être que tu n'as rien fait du tout.
De Certaines Raisons Why, qui est une série populaire auprès des adolescents, traite surtout de sujets sensibles comme le harcèlement et surtout le harcèlement scolaire. Nous sommes donc un collectif de 5 volontaires en service civique auprès de l'organisme Unicité et nous allons aujourd'hui donc poser les bonnes questions autour du harcèlement, débattre du harcèlement scolaire et essayer de faire un état de là où on en est.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée et vise à porter délibérément atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Cette violence se retrouve partout, il peut être moral, sexuel, scolaire, numérique. Elle est le fait d'une ou de plusieurs personnes à l'encontre d'une victime. Du coup, les personnes harcelées, elles peuvent être harcelées à cause de l'apparence physique, du sexe, d'identité de genre, handicap, des centres d'intérêt, d'appartenance à un groupe.
Pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, l'UNICEF estime à 700 000 le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère. Et un quart des adolescents auraient déjà pensé au suicide.
JTFM 91.2.
Le harcèlement, parlons-en.
Non, si. Non, si. Oh non. Si. Non. Si. Non. Si. Un peu quand même.
Et voilà, monsieur débat.
Alors, comme évoqué précédemment, juste un instant par Juliette, nous allons aujourd'hui nous intéresser même au harcèlement dans le milieu scolaire. Un harcèlement qui est présent dès le plus jeune âge à l'école primaire et même au collège chez les jeunes adolescents qui ne sont pour la plupart du temps pas très tendres les uns envers les autres. Ce qui nous amène donc à la question suivante. À partir de quand, selon vous, y a-t-il harcèlement ?
Personnellement, pour moi, il y a harcèlement au moment où on se rend compte que la personne commence à mal le ressentir, à s'éloigner un peu du groupe, à être de plus en plus timide. Et on peut voir les caractéristiques où elle va moins aller à l'école, son niveau va baisser, enfin tout ce genre de choses. Quand on voit en fait que l'ambiance de la personne et son ressenti face à son établissement scolaire baisse en fait.
Ouais, donc quand, pour toi, quand il y a un mal-être, quoi, quelque chose qui...
Ouais, c'est exactement ça. Un mal-être qui est de plus en plus visible selon justement comment elle ressent le harcèlement, mais ouais, pour moi, c'est ça.
Donc un mal-être croissant pour toi, Clara.
Et qui est perçu différemment par les autres élèves qui voient, ou par les autres personnes qui voient cette personne se renfermer et donc vont pas forcément aller lui tendre la main, qui peut poser des problèmes, à savoir libérer la parole, quoi.
Et des fois, c'est même pire quand la personne se met de côté, plus justement elle a des causes pour être harcelée selon les harceleurs.
Ouais, elle est affaiblie, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, ils vont de plus en plus fort la plupart du temps.
Ouais, donc il y aurait harcèlement quand, voilà, comme on a pu l'entendre dans la définition, que voilà, quand il y a une sorte de geste, de caractère répété de la part des harceleurs.
Ouais.
Ouais.
D'exclusion en quelque sorte.
On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout.
Puis aussi, j'ai la sensation que. Qu'il y a harcèlement à partir du... Enfin, dans le sens où le harcelé arrive aussi à le formuler et puis à demander, dans la mesure du possible, de l'aide à quelqu'un, un référent...
un adulte autour. De confiance.
Voilà, un adulte, quelqu'un chez qui il peut se confier.
Il ne faut pas oublier que des fois, on ne s'en rend pas compte directement et que c'est des années après aussi que... Enfin, j'ai déjà connu des personnes qui s'en sont rendues compte après que... En fait, elles en avaient souffert à ce moment-là. Et en fait, ça dépend beaucoup, je pense, de même de comment on en parle, de l'harcèlement. En fait, simplement, il y a des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui connaissent peut-être le mot, mais qui ne se rendent pas compte qu'elles en sont victimes, en fait.
Exactement, tout comme les personnes harceleuses, quoi.
Il faut aussi avoir une maturité, un certain recul pour se rendre compte qu'on a vécu certaines choses.
Ça vient aussi avec le fait que tu réfléchisses de plus tu grandis. Que tu réalises des choses, que tu repenses à des situations, ça vient aussi avec l'âge, quoi, finalement.
Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire des choses déplaisantes à Anne ?
Ouais, j'ai entendu des gens et j'ai moi aussi dit des choses.
Est-ce que si la personne ne s'en rend pas compte, justement, ça ne devient pas de l'harcèlement ? Parce que l'harcèlement... Il faut que la personne ressente un mal-être, mais du coup, si elle ressent pas de mal-être et que en fait elle s'en rendra jamais compte, est-ce que du coup, à ce moment-là, c'est de l'harcèlement ou pas ?
Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, c'est vrai que bon, à partir du moment quand même où il y a quelque chose qui revient sans cesse et qui vise à du moins faire du mal à une personne et à l'atteindre.
En général, au bout d'un moment, elle s'en rend compte.
Oui, la plupart du temps, ouais.
Oui, ou le fait d'en parler dans son entourage, on peut lui mettre les mots à la place de la personne, lui dire, écoute, je pense que tu es harcelé et qu'on peut appeler ça comme ça.
Après, ça peut être aussi du point de vue de l'harceleur. Enfin,
oui.
À un moment, c'est délibéré de harceler. Donc on peut parler d'harcèlement quand aussi le harceleur harcèle. Enfin, même si la personne ne s'en rend pas compte.
L'action est là, quoi. L'action est là, ouais.
Faut pas oublier qu'il y a les deux côtés, quoi. Il n'y a pas que la personne qui est harcelée, ouais. Il y a aussi l'harceleur qui joue énormément.
Et puis la personne harcelée va peut-être ressentir une honte ou une atteinte à sa fierté. Et tout le monde a une fierté. Donc libérer la parole et parler en disant qu'on est affaibli ou qu'on se sent visé, c'est dans la nature humaine de le cacher, quoi.
Ouais, surtout quand on est jeune et qu'au collège, justement,
voilà, faut montrer qu'on est fort.
Voilà, l'image, elle compte énormément. Et justement, le fait de se dire, oui, je suis harcelée, ce genre de choses, ça peut aussi, justement, ouais, la honte et même la peur d'être encore plus rejetée, peut-être.
Exactement, je pense qu'il y a une fierté. Si on doit un peu reprendre ce qu'on dit, il y a aussi une fierté de la personne qui du coup, est supposée harceler, d'être dans le déni, de se dire, non, c'est pas du harcèlement. Il y en a qui, je pense, qui se cachent derrière ça aussi.
C'est pour rigoler. Ah,
c'est un jeu, c'est pour rigoler.
Ouais. Voilà, c'est pas méchant, tout ça, tout ce genre de choses. Ouais.
Mais au final, c'est peut-être aussi une façon de ne pas vouloir voir la réalité.
En fait, la majorité d'entre vous qui écoutez n'avait aucune idée de ce que vous faisiez vraiment.
C'est très banalisé. Le mot harcèlement, c'est quand même un mot très fort qu'on entend très souvent et employé mal, j'ai l'impression. Tellement c'est harcèlement, ouais, c'est, d'accord, c'est devenu un mot banal alors que ça, c'est censé être un mot fort, quoi, qui désigne un mal-être.
Et puis je pense qu'il y a des échelles aussi de harcèlement, quoi. Chaque personne vous dira, moi je pense que le harcèlement c'est à partir du moment où la personne tombe en dépression, moi je pense, enfin voilà, je pense qu'il y a aussi des échelles et un niveau qui est vraiment propre à chacun, quoi.
Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut arrêter le débat.
Donc suite à ce débat, on va lancer une courte pause musicale de l'artiste Stupéflip, la chanson du Spleen des Petits qui reprend un peu tout ce qu'on a dit, et après on se retrouve pour un bref entretien.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir, s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir, s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole, sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques Kiri écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocorèves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak qui veut s'échapper. Voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle n'ait pas oublié. Dans la cour, c'est crade, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sur le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
Et du coup, toi, Juliette, est-ce que tu as été harcelée dans ta vie ou est-ce que tu connais des personnes proches de toi qui ont été harcelées?
Bah, du coup, moi, j'ai été harcelée et j'étais harceleur. Dans ma période harcelée, c'était pas très grave, mais c'était des trucs, genre quelques insultes, ou alors on m'enfermait dans les toilettes, ou on racontait des ragots sûrement.
T'as dit que c'était pas grave, mais tu viens quand même de dire enfermé dans les toilettes.
Dans mon école, il y avait pas mal d'harcelés plus sérieux, on va dire. Et du coup, c'est pas sur la même échelle, je trouve.
Ouais, mais je vois pas du coup pourquoi tu te compares. Par exemple, moi, c'est plutôt du domaine du chantage affectif, en fait. C'était mes deux meilleurs amis.
Ouais.
Et si je me compare aux autres, j'aurais pu dire que c'était rien, mais ça m'a quand même fait du mal, quoi.
Donc pour toi, Clara, c'est vraiment un point de vue personnel. Il faut pas avoir... Faut pas se comparer.
Bah oui, en soi, le harcèlement, c'est quelque chose d'assez intime, même si on peut en parler. C'est vraiment propre à chacun, en fait. Et du coup, ouais, Juliette, tu disais que t'avais été harceleur. Tu peux nous en dire un peu plus?
Bah du coup, j'ai été harceleur pendant une année. En fait, il y avait un garçon, donc c'était au collège, qui était vraiment mis à part à chaque fois. Et en fait, avec l'effet de groupe, je me suis mise à l'harceler, pareil que les autres. Donc c'était un peu violent, enfin on poussait des fois, on racontait des ragots sur lui, c'était pas super ouf.
Mais du coup quand t'entends dire ça en fait, raconter des ragots sur certaines personnes et tout, on l'a un peu tous fait en fait avec l'effet de groupe, enfin je vais pas faire de...
Oui tu veux pas faire de généralité,
voilà.
Je dis souvent que... qu'on est harceleur sans le vouloir, même nous, en fait.
Enfin, même en que faisant rien, en fait. Juste,
voilà.
En regardant, en laissant faire, tout ce genre de choses.
Mm.
Mais après, oui, plus précisément, dans les actes, je pense qu'on a un peu tous fait, en fait. On a un peu tous participé. Quand Juliette dit ça, moi, ça me fait écho sur le fait que, bah, moi, en fait, moi aussi, j'ai sûrement été harceleur sans même m'en rendre compte. J'ai sûrement fait du mal à quelqu'un sans même m'en rendre compte. Et bah c'est triste en fait quand on y pense. Parce qu'aussi il y a la peur de bah du coup de se retrouver comme avec la personne harcelée si justement on se met contre
ado.
Au groupe. Voilà c'est ça.
Ouais.
Moi j'ai beaucoup ressenti ça pendant ma période collège 5e justement de suivre parce que j'avais peur justement que ça se retourne contre moi et que, bah, que j'en subisse les conséquences quoi.
Il va être malheureusement temps pour nous de rendre l'antenne. On sait que c'est un peu frustrant car il y aurait encore tant de choses à dire sur le sujet. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sachez également que des numéros et des plateformes sont mises à votre disposition, tels que le numéro vert au 3020 ou bien encore la plateforme de discussion Fil Santé Jeune. Vous pouvez retrouver les différentes infos sur le site Jet FM. Merci pour votre écoute et belle journée à vous tous. Et n'oubliez pas, c'est en libérant la parole que l'on devient plus fort.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer, nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. Que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, de quoi booster votre confinement. On passe à la deuxième partie de notre émission où Maëva, Ambre, Lolita et Ama ont choisi d'enquêter sur la question de l'orientation scolaire. Et les filles, c'est à vous.
Nous abordons maintenant un sujet qui concerne tout le monde, celui de l'orientation scolaire. Beaucoup de questions se posent autour de cette thématique concernant son efficacité. Par exemple, permet-il à chacun de trouver sa voie? Pour cela, nous avons interrogé de nombreuses personnes sans critères définis, de tout âge, sexe et horizon, par le biais du micro-trottoir. Nous souhaitons vous faire part des ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Enfin, nous vous présenterons le témoignage d'Hélène Pagès, conseillère en orientation au CIO de Rezé. Et enfin, en conclusion, nous essayerons d'apporter des solutions. Sans plus tarder, laissons place maintenant aux différentes interviews que nous avons réalisées auprès de différentes personnes afin de connaître leur avis sur le sujet de l'orientation.
Alors, j'ai trois questions à te poser, du coup, les voici. Quand on parle d'orientation scolaire ou pro, à quoi penses-tu ?
Je pense à l'avenir.
À l'avenir de l'enfant, au futur.
Alors, aux études et au futur métier.
Ça, pour moi, ça se situe sur un chemin, le chemin de,
de la connaissance.
L'école, un conseiller qu'on va rencontrer pour qu'il nous éclaire un petit peu sur les possibilités.
Ça me fait penser à l'ONICEP et les fiches, ça m'angoisse.
Choisir sa voie.
Je pense, sur le plan sociologique, il y a une vraie pression.
Que pensez-vous de la manière dont l'éducation nationale gère la question de l'orientation ?
Pas toujours très bien.
Ah, alors là, oui. Bonne question. C'est très compliqué.
Je pense que les orientations se font de manière trop prématurée.
La conseillère d'orientation au collège, tu la vois... de base, il faut aller la voir. Et puis, personne ne va la voir. Hein.
Pas facile de trouver aussi, notamment au collège, de savoir, parce qu'on est jeune, de savoir ce qu'on veut faire.
C'est surtout aux parents de s'investir.
On oriente un enfant souvent par quelque chose que eux voient, vu les résultats scolaires, alors que l'enfant, il serait mieux dans une autre branche.
S'orienter vers les centres d'information et d'orientation, c'est pas toujours évident.
C'est dommage d'orienter les enfants dès la quatrième alors qu'ils ne sont pas des fois encore suffisamment matures pour savoir ce qu'ils veulent faire. C'est très dommage, d'autant que souvent quand on sait ce que l'on veut faire, on est beaucoup plus motivé.
Et puis avoir accès à toutes les informations de l'orientation, c'est ce qui est le plus difficile.
Les profs orientent plutôt les enfants dans des endroits où il y a le plus de débouchés et pas forcément dans ce que veut faire l'élève.
C'est pas je pense qu'au niveau de l'école, on laisse trop ça aux profs et puis c'est un peu débrouillez-vous quoi.
En qualité d'enseignant en lycée pro, mes élèves sont déjà orientés. Donc ce que je peux dire par rapport à eux, c'est que leur orientation s'est faite par défaut. C'est souvent des élèves qui ont des difficultés, donc on les oriente vers le bac pro. Mais malheureusement, le lycée pro a toujours cette image négative et réservée à ceux qui ne peuvent pas faire la filière générale.
Elle fait avec les moyens qu'on lui donne, elle essaie de donner les bons conseils.
Je pense qu'enseigner, c'est pas pareil qu'orienter et qu'ils savent pas forcément le faire. En tout cas, c'est pas l'impression que ça m'a donnée.
Pour moi, l'éducation nationale, ce qu'ils devraient faire après le bac, pour beaucoup de jeunes, c'est leur laisser un temps de battement.
Avez-vous trouvé votre voie ?
Là, je suis en mode métier de la mode. Là, je suis bien, je suis dans ce que j'aime. Donc c'est cool. Après, je sais pas, peut-être que après ça a pu me plaire, je vais changer ou je sais pas quoi, moi.
Oui, je l'ai trouvé, mais ça a été compliqué puisque moi j'ai un parcours de scolaire particulier puisque j'ai fait une formation en vente et après j'ai complètement changé de voie. Donc maintenant je suis professeur des écoles, mais ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu que je me forme, que je me renseigne par moi-même, que ça a été très long. Il a fallu faire des sacrifices, accepter d'être sous-payé. Enfin, le parcours n'a jamais été clair. Il a été compliqué, mais c'est jamais évident de trouver sa voie.
Je suis enseignant. Ça ne veut pas dire que je vais être dans cette voie encore pour très longtemps. Donc la difficulté maintenant par rapport à l'orientation professionnelle quand on est adulte, c'est de se reformer et se réorienter.
28 ans, oui c'est ça, 28 ans que je suis aide-soignante. Donc oui, j'ai trouvé ma voie, oui.
Oui, j'ai trouvé ma voie. M'occuper d'enfants, j'ai toujours voulu être avec des enfants.
Oh bah c'est simple pour moi, oui, c'est très simple. À 7 ans, je suis allée dans une classe où il y avait une institutrice, Mademoiselle Renée, qui a posé ses regards sur moi. Cette année-là, j'ai eu la médaille toujours, c'était l'année des médailles, et puis j'étais moyenne, mais je me suis dit, un jour, je serai instite.
Je suis pas sûre d'avoir trouvé ma voie, mais je pense que j'aime bien ce que je fais. Et par quels moyens pas mal de voyages, de rencontres, de hasard, un peu de coïncidence et de gens qui m'ont aidé, des gens qui ont cru, qui m'ont donné des chances, qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien accompagné, et du coup même des choses qui me semblaient difficiles au final je m'en suis sortie et du coup ça m'a donné plus de courage pour la suite.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Boost en confinement.
Les enfermés vont te faire vibrer.
Après avoir interviewé plusieurs personnes sur la question de l'orientation, nous vous présentons le témoignage d'Hélène Pagès, conseillère d'orientation psychologue au CIO de Rezé.
Pour commencer, peux-tu te présenter, nous expliquer un peu le poste, en quoi ça consiste, où et depuis quand ?
Donc, je travaille dans l'orientation depuis une trentaine d'années maintenant au sein de l'Éducation nationale. J'ai d'abord été conseillère d'orientation, puis conseillère d'orientation psychologue, et depuis 2017, trois ans maintenant, nous nous appelons des psychologues de l'Éducation nationale, spécialité, éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle. Je sais, c'est un titre à rallonge, mais effectivement, depuis trois ans maintenant, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui nous donne cette dénomination. Je travaille, moi, sur Nantes, plus exactement en Sud-Loire, sur Rezé. Je suis basée au centre d'information et d'orientation de Rezé. Et comme mes collègues, on est 17 sur le site, on se répartit les établissements publics du Sud-Loire, à savoir les collèges, les lycées professionnels. Et en ce qui me concerne, je travaille sur un gros lycée de 2000 élèves et un lycée professionnel de 300 élèves. Et puis également, nous avons des permanences que nous faisons sur le centre d'information et d'orientation.
Que penses-tu du système d'orientation français ? Donc ce que tu constates de ton statut ?
Pas facile comme question, puisque le système d'orientation français, c'est à la fois le système éducatif dans toute sa complexité, avec des procédures, mais des procédures qui se veulent, égalitaire pour tous. Le système d'orientation en France, effectivement, il y a des procédures, il y a tout un calendrier avec des dossiers à faire, donc une relation au temps qui est complexe, et c'est pas forcément le temps dans lequel l'élève est. L'élève, il a besoin de plus de temps, il a besoin de plus de moments pour construire son projet. Il y a de la sélection, inévitablement, puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde dans les formations. Et du coup, ce qui va être mis en avant, ça va être souvent le dossier scolaire, les compétences qu'on appelle les compétences académiques. Et pour certains, ça peut être difficile.
Quels moyens vous sont donnés en tant que conseillère d'orientation pour orienter les personnes et quelles en sont l'efficacité ?
Alors, quels sont les moyens qui nous sont donnés ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on est très très peu de psychologues éducation nationale, spécialité orientation, on est environ 4000. Donc rapporté à la France, c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc si on parle de moyens, par exemple, si on regarde sur un lycée comme sur lequel j'interviens, où il y a plus de 2000 élèves, ben, on est deux. Deux, mais tout en ayant aussi d'autres établissements scolaires. Donc ça veut dire que clairement, moi j'y vais une journée et demie, ma collègue une journée. Donc voilà, on est deux jours et demi sur un établissement de 2000 élèves. Donc clairement, en termes de moyens, eh bien on ne peut pas voir tout le monde comme on le souhaite, puisque c'est vrai que notre cœur de métier, c'est vraiment l'entretien. Hein, donc c'est comme ça qu'on travaille avec les élèves en tête à tête par rapport à la construction de leur projet. Et clairement, on ne peut pas voir tout le monde. Donc dans nos missions, ce que nous demande le ministère de l'Éducation nationale, c'est vraiment de s'appuyer sur ceux qui ont plus de besoins spécifiques. Les jeunes en situation de handicap, en situation de décrochage, des jeunes qui socialement sont un peu perdus, n'ont pas derrière eux une famille qui les porte, qui les soutient. Donc c'est vrai qu'on peut être plus associé à des jeunes qui ont besoin d'accompagnement dans leur construction de projet. Alors est-ce que c'est efficace ? C'est difficile de le mesurer. On voit l'efficacité, effectivement, quand on a suivi un jeune pendant toute une année, on l'a accompagné, on a eu plusieurs entretiens avec lui, et puis on voit qu'à l'issue de Parcoursup, il est là où il voulait être. Et donc, même s'il n'est pas un super dossier, on a su trouver les arguments avec lui, les engagements, valoriser un petit peu tout ce qu'il sait faire et qu'il est là où il souhaite être. De la même façon pour des élèves de troisième ou des élèves qui ont pu décrocher et puis qui retournent vers un lycée. Donc ça, effectivement, ce sont toutes ces petites victoires, effectivement. Alors, efficacité, est-ce que ça se mesure directement ? Est-ce que ça se mesure plus tard ? C'est toute la complexité. C'est vrai qu'on est amené à revoir des familles plusieurs années après, les grands frères, les petites sœurs, les petits frères. Et donc, les familles nous apportent un peu de crédit quand même
même si nous ne sommes pas beaucoup.
Donc pour la question suivante, on a un peu parlé du coup dans ce que tu viens de dire avant, mais qu'est-ce que tu penses en fait de la place que vous occupez en tant que conseiller d'orientation dans l'orientation du coup scolaire et professionnelle des personnes ?
Je dirais que c'est une mission qui est partagée. Elle est partagée avec les familles, puisque chaque enfant est issu d'une famille avec des envies, des projections qu'ont les parents sur leur propre enfant. Un jeune, il a aussi des amis, donc voilà, chacun projette sur lui des envies. Donc il y a tout un méli-mélo qui se passe là-dedans. C'est aussi une mission partagée avec les enseignants, puisque maintenant ce sont vraiment les professeurs principaux qui sont investis de cette mission d'orientation, ainsi que les CPE, les conseillers principaux d'éducation. C'est vrai que depuis 2007, depuis la dernière loi portant sur l'orientation, il est vraiment question que nous nous centrions essentiellement sur les jeunes à besoins spécifiques. Donc c'est vrai que notre place, elle est un maillon au sein du système, même si, avec toutes les réformes qu'il y a là depuis 2 ans, on est extrêmement, extrêmement sollicité pour tous, pour de l'information sur la réforme auprès des parents, auprès des profs, auprès des élèves. Donc, on est à la fois sollicité sur les besoins spécifiques, mais aussi sur les questions qui concernent tout le monde. Donc, on est beaucoup, beaucoup sollicité.
As-tu des chiffres d'accompagnement et ou de réussite ?
Au niveau de l'accompagnement, ce que je peux vous dire, c'est que si je reprends l'exemple du lycée, là où ils sont 2000 et où on est 2 à intervenir, on fait en moyenne 400 entretiens d'orientation auprès des élèves, surtout sur les classes de seconde. Après de réussite, je l'évoquais effectivement tout à l'heure, il nous arrive de voir des familles sur plusieurs générations. Donc il y a une certaine confiance qui nous est accordée. Ce qui s'exprime surtout au niveau de l'orientation, c'est quand ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'il faut toujours un fautif, le conseiller il est nul, il n'a rien su me dire, parce que c'est pas simple effectivement de parler de soi, comment on se projette soi dans l'avenir, si on n'a pas d'idée, si on n'a pas d'envie. Donc t'as vu le conseiller, ça m'a servi à rien. Alors que dans les faits, en entretien, on travaille beaucoup sur les compétences, sur les qualités, sur la confiance qu'ont les jeunes et comment ils peuvent transformer ça, être acteur. En sortant de l'entretien, il n'y a pas forcément quelque chose qui se dégage. On est plutôt à semer effectivement des petites graines pour que le projet, petit à petit, avec le temps, il pousse.
Est-ce que vous constatez une évolution de la prise en charge des personnes accompagnées ?
J'ai commencé il y a une trentaine d'années et c'est clair que le métier n'était pas du tout le même à l'époque. Et c'est vrai que la prise en charge a beaucoup évolué avec l'arrivée du numérique et d'Internet. Maintenant, l'information est à la portée de tous en un clic. Mais justement, l'orientation, c'est pas que de l'information. Faut surtout pas la résumer à ça, parce que l'orientation, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, puisque c'est les questions qui se posent autour du est-ce que j'ai le niveau, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais y réussir, est-ce que derrière je trouverai un boulot, toutes ces choses-là. Une autre évolution aussi, c'est la vitesse à laquelle les métiers évoluent. Et c'est vrai que c'est compliqué actuellement de pouvoir savoir dans quel secteur d'activité il y aura vraiment du boulot. Est-ce que le métier auquel on se prépare aujourd'hui, il existera encore ? Et en fait, ce qu'il faut surtout pour moi, pour nous, c'est faire comprendre aux familles, de faire comprendre aux élèves que ce qu'il faut, c'est surtout avoir des compétences générales et puis pouvoir apprendre à s'adapter, apprendre à évoluer. C'est vraiment ça, en fait. Ce à quoi l'école forme, l'école prépare, c'est-à-dire des compétences qui seront transposables et transférables dans différents secteurs d'activité, puisque on n'est plus du tout dans le modèle formé d'un métier pour la vie. Donc c'est ça qui est à la fois passionnant et déstabilisant.
Quel est l'impact psycho-affectif des ados et jeunes adultes face à ce genre de questionnement ?
C'est vrai qu'on n'est pas du tout tous égaux Concernant les questions d'orientation, il y a ceux pour qui c'est limpide, c'est clair, ça va vite, c'est évident. Et puis ceux qui, pour qui ça pose beaucoup de questions et des questions qui peuvent être même très, très inhibantes et empêcher d'avancer. Donc c'est vrai que les questions que l'on pose aux élèves sur leur orientation, ça leur demande de se projeter dans le temps, de se projeter dans l'avenir, alors qu'eux-mêmes sont en pleine construction de leur propre identité. Donc là, ça c'est terrible. Comment je me vois moi dans 10 ans alors que je ne sais même pas qui je suis aujourd'hui? Donc c'est assez terrible comme questionnement. Donc il y a ceux pour qui effectivement qui vont avoir un entourage enveloppant, sécurisant, et puis qui vont pouvoir construire petit à petit en s'engageant dans des activités, en se découvrant des qualités, en se découvrant des envies, et ça va se construire les intérêts petit à petit. Et puis ceux pour qui vont pas correspondre au schéma que les parents envisagent pour eux, et là ça peut être complètement dramatique et très voilà très difficile à vivre. D'autres pour lesquels c'est le niveau scolaire qui va pas suivre, tout l'engagement dans les études qui va pas suivre, et je veux effectivement faire telle école d'ingénieur alors que j'ai 5 en maths, mais bon, si je le veux, oui, si tu le veux, mais bon, dans l'immédiat tu ne le peux pas. Donc c'est aussi toute la frustration, je veux, donc je peux. Et non, il y a aussi, on le disait tout à l'heure, dans notre système d'orientation scolaire français, il y a aussi des prérequis, il y a aussi des compétences académiques dans telle ou telle matière à avoir. Donc c'est de la frustration. C'est toujours très, très compliqué parce que c'est très déstabilisant dans cette phase de construction d'identité à l'adolescence.
Maintenant, Hélène, nous allons te poser quelques questions supplémentaires afin de rebondir sur ton témoignage.
Selon toi, quelles améliorations ou solutions peuvent être apportées aujourd'hui pour mieux trouver son orientation ?
Dans certains pays comme au Canada, par exemple, l'orientation fait partie des cours au même titre que le français, l'histoire géo et les maths. Et c'est vrai que c'est une éducation à l'orientation qui est faite, c'est-à-dire qu'on apprend sur ce que c'est qu'un métier, découvrir une entreprise, comment ça fonctionne. On est déjà dans... Comment ça marche, et après quand on sait comment fonctionne un système, c'est plus facile de pouvoir y trouver sa place. Le ministère a tout un programme aussi en France qui est d'ailleurs très intéressant autour de ce qu'on appelle le parcours à venir. Donc tout ça c'est dans les textes et prévu déjà une espèce de programme, mais qu'il faut faire en plus du programme de maths, en plus du programme d'histoire, en plus. Donc c'est ce en plus en fait qui est compliqué, qui est difficile, c'est-à-dire que les profs ne se sentent pas forcément compétents et nous, on en demande de faire tout plein d'autres choses à côté. Donc c'est là où c'est compliqué.
Vous recommandez aux jeunes qui viennent vous voir, aux jeunes lycéens qui n'auraient pas trouvé encore leur voie, ou du moins pas complètement, un temps de battement après leur baccalauréat, par exemple, pour faire un service civique, des stages ou pour vivre une expérience volontaire? Non pas pour arrêter complètement les études et se détacher de l'école, mais au contraire pour développer leur expérience et leur faciliter à trouver leur voie.
Donc oui, et encore oui. C'est ce que le ministère appelle une année de césure, par exemple, et tout ce qui peut effectivement permettre à un jeune en recherche de projet de vivre des expériences pour prendre la confiance en soi, pour découvrir, pour explorer, ça c'est formidable. C'est vraiment à valoriser. Moi je suis à fond, je pousse pour que les élèves puissent effectivement faire ça, et même tout au long de l'année. Moi je les envoie beaucoup vers Bénénova pour qu'ils puissent tester aussi ces expériences d'engagement ponctuelles, parce qu'ils sont quand même très pris au niveau scolaire, pour dès le lycée pouvoir s'ouvrir un petit peu les représentations, les idées, les envies, découvrir les autres et se découvrir par là même.
Je rebondis sur la question concernant la place que vous occupez en tant que conseiller d'orientation. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez mis en avant et que tout le monde est au courant que des centres comme le CIO existent ?
Je sais pas trop quoi répondre à cette question, parce que on n'a pas forcément les moyens de répondre à plus de sollicitations. Pour ceux qui ont besoin de nous, on est effectivement connus et reconnus. Maintenant, c'est vrai qu'on n'intervient pas dans les établissements privés.
Hein, on n'est que sur les établissements publics. Et maintenant, au niveau du CIO, voilà, après, c'est une question de moyens. Si effectivement, derrière, on n'est pas suffisamment pour pouvoir accueillir tout le public qui vient vers nous, voilà, faut peut-être pas faire trop de promotion et de publicité. Après, il est vrai qu'ont été développés aussi d'autres moyens. Hein. Il y a les blogs où l'ONICEP a pu mettre en place des chats ou des questions en ligne autour de mon orientation en ligne. Donc, voilà, c'est clair que on pourrait être plus connu, mais on pourrait effectivement mieux faire notre travail si on était plus. En tout cas, c'est un métier qui est fabuleux, voilà, dans ce qu'on rencontre de richesse, de gens qui se posent des questions, et c'est ça qui est formidable. À chaque fois, on est sur des questionnements différents, des histoires différentes, des êtres différents, des environnements différents, et c'est ce qu'effectivement, moi, qui me passionne dans cette mission auprès des jeunes. Aidez-moi, jeune.
Eh bien, merci Hélène Pagès pour ce témoignage très enrichissant concernant l'orientation scolaire. Nous vous remercions. Et est-ce que de votre côté, vous avez quelque chose à rajouter ?
Eh bien, ce fut également un plaisir pour moi d'expliquer un petit peu mon métier et mon travail auprès des élèves, des adultes et des jeunes adultes. Donc, merci à vous, merci.
Au travers de ce micro-trottoir et de ce témoignage d'une conseillère d'orientation, nous avons entendu différents points de vue concernant l'orientation scolaire. Le but était de savoir quels étaient les obstacles à une orientation de qualité, mais surtout de trouver des solutions. L'école, au sens large, est censée permettre à chacun de gagner en liberté et en responsabilité. Responsable de soi-même et des autres, via l'apprentissage de valeurs et principes. Libre d'être ce que nous voulons être, de choisir un métier, de choisir son mode de vie. Il y a liberté lorsque nous pouvons choisir, et donc savoir et connaître. Si déjà nous en avions véritablement conscience, nous serions certainement plus motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que malgré la motivation, l'école ne permet pas toujours de se responsabiliser et de choisir ce que l'on préfère. Car l'apprentissage qu'elle délivre est parfois insuffisant et compromis par des facteurs internes et externes. Ces facteurs sont nombreux. Il peut s'agir d'un emploi du temps inadapté, de classes surchargées, de problèmes relationnels avec les autres élèves, d'une surcharge de travail, d'un système de notation défaillant, etc. Autant de choses dont peuvent découler fatigue, pression, manque de confiance en soi et en l'autre, démotivation. L'école devient alors, pour certains, une prison dont on espère s'échapper au plus vite pour retrouver une liberté. Malheureusement, dans cette optique, la liberté n'a pas toujours le goût qu'on lui croyait. En effet, dans notre empressement, on est souvent conduit à faire des choix qui ne nous correspondent pas toujours.
De plus, lorsque vient le moment de prendre les décisions concernant notre orientation, on est parfois confronté à des difficultés supplémentaires qui peuvent être difficiles à vivre. En voici quelques-unes. L'âge, comme nous l'avons vu, peut être un problème. En effet, c'est au collège, lorsqu'on a entre 12 et 15 ans, que vient déjà le moment de choisir. À cet âge, on ne sait pas toujours ce que l'on souhaite faire et on n'a pas forcément la maturité nécessaire. Aussi, nous avons vu que l'orientation se fait en fonction des résultats et pas des envies et des compétences réelles, ce qui conduit bien souvent à une orientation subie et donc peu épanouissante. Surtout, c'est l'accompagnement à l'orientation de chaque élève qui est insuffisant au sein de l'école. En effet, ce sont les professeurs et le CPE qui endossent la responsabilité d'orienter les élèves dans telle ou telle voie. Cependant, ce n'est pas de l'accompagnement, ils ne sont pour la majorité pas compétents pour orienter correctement chaque élève et n'ont ni le temps. Quant aux conseillers et conseillères d'orientation, malgré une grande sollicitation, ils ou elles n'ont pas suffisamment de temps pour voir tout le monde et sont d'ailleurs amenés à se centrer sur les élèves qui ont des besoins spécifiques, comme le décrochage scolaire ou la situation de handicap. Enfin, il existe le projet d'avenir, mis en place dans les écoles de la 6e à la terminale et qui permet à chaque élève de découvrir le monde professionnel et économique. En 3e, il s'appuie sur un ou plusieurs EPI, dit enseignement pratique interdisciplinaire, sur des thèmes bien spécifiques, un stage d'observation et sur des actions de découverte collège-lycée. Au lycée, ce dispositif est un peu plus conséquent, mais là encore, c'est en plus du programme et c'est bien sûr insuffisant pour trouver son orientation.
Aujourd'hui, il est nécessaire de repenser le système scolaire, afin que l'école puisse être un lieu épanouissant, où chacun peut bénéficier d'un véritable enseignement de qualité. Elle doit également permettre à chacun de trouver son orientation. Il ne s'agit pas là de développer la curiosité d'un groupe d'élèves pour tel ou tel domaine, mais de savoir ce qui intéresse vraiment chacun, car nous sommes tous différents. C'est pourquoi il faut mettre en place, à partir de la sixième et tout au long de la scolarité, des dispositifs permettant à chaque élève de se découvrir. Des ateliers autour de la connaissance de soi, comme par exemple les ateliers du sixième ou s'en inspirant. Ce qu'il faut, c'est surtout aménager des temps d'accompagnement et ce, pour tous les élèves, dès la sixième et tout au long de la scolarité, qu'ils soient en difficulté ou non, car tous en ont besoin. Ça peut être au travers de l'accompagnement au projet d'avenir, comme c'est le cas en service civique, mais également par la conseillère d'orientation ou par un professeur qualifié qui pourrait être désigné comme tuteur. Ce qui implique que les professeurs doivent tous être formés à accompagner les élèves dans le choix de leur orientation et que les conseillères d'orientation ou psychologues d'éducation nationale spécialité orientation doivent être plus nombreuses. Il est aussi indispensable que l'élève soit suivi à partir de la sixième et tout au long de sa scolarité. Ça pourrait être au moyen d'un dossier qui concilierait ce qu'il a appris de lui-même, ses recherches, sa réflexion. Aussi, il est nécessaire de permettre à chacun de découvrir et d'explorer les voies qui l'intéressent. Ça, au travers de plusieurs stages de découverte et ce, dès la quatrième. Des temps de recherche personnelle ou supervisés par un professeur ou la conseillère d'orientation pourraient aussi être instaurés. Il faut valoriser l'année de césure, qui permet de faire une pause pendant ses études pour se découvrir au travers d'une autre expérience. Bien sûr, il convient également d'informer et d'expliquer aux élèves les différentes voies qui s'offrent à eux à chaque étape de leur scolarité. Et enfin, et nous conclurons là-dessus, il faut que nous sachions pourquoi nous allons à l'école. Et peut-être que si ces solutions sont envisagées un jour, l'école sera véritablement ce qu'elle devrait être, un espace où chacun pourra gagner responsabilité et liberté. Liberté de devenir ce que chacun souhaite être.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques. Enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent le bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent. Sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils. merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
C'était les gens qui doutent, de couple sympathique. Vous êtes sur Jet FM 91.2 dans l'émission Les Enfermés.
Une émission 100% confinement réalisée par les jeunes du dispositif Booster. Et tout de suite, la suite.
Notre groupe a choisi de réaliser une fiction sonore qui a pour titre Le Conseil des animaux. On a essayé de se mettre dans la peau des animaux et on s'est demandé ce qu'ils pensent de notre confinement.
Bon ben, le mieux c'est de leur laisser la parole, je crois.
Bonjour, Grand-Duc. Vous avez l'air de bien vous porter. D'où tirez-vous toute cette énergie ?
Vous êtes fin observateur. Je dors bien mieux depuis l'arrêt de l'usine voisine.
Vous parlez de la chaîne de montage automobile ?
Oui. Toutes ces nuisances sonores m'empêchaient de bien dormir. Nous allons commencer le conseil, sœur.
Silence. Silence. J'ai dit silence. Taisez-vous.
Est-ce que tout le monde est présent ?
Il me semble qu'il manque Mr. White.
Bah, il est toujours à la bourse, celui-là.
Il ne va tout de même pas nous poser un lapin, le bougre.
Silence. J'entends quelqu'un approcher.
Beauté divine ! Excusez-moi de mon retard.
Dépêchez-vous. Prenez place. Chers amis, exceptionnellement, le conseil est réuni aujourd'hui. Comme certains d'entre vous ont pu le constater, les sans-poils, les textiles ou les humains, appelez-les comme vous le voulez, sont de moins en moins présents dans les rues. Madame Rossette, il me semble que vous ayez des informations à ce sujet.
Kakaka, merci votre honneur, kakaka. Une de mes cousines éloignées, Gisèle, kakaka, se serait fait manger par des humains. Quelle tragédie, mais que voulez-vous ? La pauvre était malade. Ils les auraient contaminés, kakaka.
Les humains seraient donc en pleine crise. Quelqu'un aurait-il un avis à partager aux autres membres du conseil ?
Mesdames et messieurs, les membres du conseil, je tiens à faire part de mon indignation. Les conséquences de leur absence d'activité sont bien plus pénibles qu'on aurait pu le présager. Nous sommes actuellement en rupture de frites sur le sol de nos rues. Fin gourmet que nous sommes, nous ne pouvons laisser passer cela.
Personnellement, je me fiche du manque de frites. Et bien au contraire, les parcs vides me permettent des balades en toute sécurité avec mes canetons.
Je vous ai vu vous hérisser. Avez-vous quelque chose à rajouter, monsieur Lepic ?
Je suis...
Allez, crache-le, le morceau !
Je suis content de la situation. Il y a moins de voitures sur la route. Nous pouvons circuler en ayant moins de risques de se faire écraser. C'est pareil pour mes compères batraciens, grenouilles et crapauds, pour mes copains sangliers, chevreuils, renards, et aussi pour mes amis, les libellules.
Ah, bon sang, il va pas la fermer, bordel ! Tu peux pas abréger ! Je t'ai dit de cracher le morceau, pas de vomir tout un banquet !
Un peu de respect, s'il vous plaît.
Pardonnez-moi, votre honneur. Mais je parle au nom de tous les ragondins. Et ces humains, ils peuvent bien tous crever. Nous, les gens de la Bourbière, on est bien contents de plus les voir. Il y a moins de chasse et le marais n'a jamais été aussi propre. On pourrait manger par terre. J'ai donc qu'une seule chose à dire. Je leur grignote bien le roseau à l'arrêt. Qu'ils aillent pourrir en enfer.
Taisez-vous.
Passons. Je vous remercie tous pour vos témoignages. Je tiens à vous dire que même si la situation peut être avantageuse pour certains d'entre nous, n'oublions pas que ces humains nous sont parfois utiles. Je vous conseillerais de vous tenir à distance de leur habitation. La situation ne va peut-être pas durer.
En vous voyant si satisfait de leur disparition, je me demande si vous n'avez que faire de ma misère. Je vous le répète, mais il n'y a plus de frites. De plus, mon principal loisir étant de relâcher mes colombines sur leur tête, comment suis-je censé faire ?
Maman, maman, viens voir, il y a plein d'animaux près de ma cabane.
C'est étrange. D'où peuvent-ils bien venir ?
C'était le Conseil des animaux. Une fiction sonore réalisée par Manon, Kevin, Maëlle, Claire et Louane. Nous arrivons à la fin de notre émission. Au travers de celle-ci, différents thèmes ont été abordés par les volontaires boosters d'Unicité. Orientation, harcèlement, environnement. Tout ça, c'est parti d'un constat. Ce n'est jamais simple de trouver sa place. Que ce soit nous, lorsqu'on la cherche en s'orientant vers un futur métier, ou bien nous, lorsque l'égalité n'est plus et que la place que l'on a est réduite à subir celle des autres. Mais aussi eux, les animaux, la flore, tout ce qui nous entoure et dont on oublie qu'ils ont eux aussi une place. Heureusement, on nous a fait un peu de place à Jet FM pour pouvoir vous faire entendre nos voix et la leur. On n'oublie pas les volontaires boosters qui ont travaillé à rendre l'émission agréable grâce à la création d'un générique et de virgules sonores. Un grand merci, donc, à RL, Laure, à notre coordinatrice Claire et à tous d'avoir rendu ce projet possible. Merci.
On se quitte avec une création sonore collective autour du poème « La chanson des oiseaux » de Victor Hugo. Merci à Titouan pour le montage. Bonne écoute sur Jet FM et vivement la sortie.
Vie, ô bonheur, bois profond, l'essor sans fin nous réclame. Planons sur l'air et les eaux, les oiseaux sont de la poussière d'âme. Accourez, planez, volons au vallon, à l'antre, à l'ombre, à l'asile. Perdons-nous dans cette mer de l'éther où la nuée est une île.
Du fond des rocs et des joncs, des donjons, des monts que le jour embrase, volons et frémissons fous, plongeons-nous dans l'inexprimable extase. Oiseaux, volez au clocher, au rocher, au précipice, à la cime, au glacier, au lac, au pré, savourez la liberté de l'abîme.
Buvons, mangeons, bectons les festons de la ronce et de la vigne. Le banquet dans la forêt est tout prêt, chaque branche nous fait signe. Les pivoines sont en feu, le ciel bleu, à lune sans fleurs éclose. Le printemps est pour nos yeux, tout joyeux, une fournaise de roses.
Il nous dort aussi tous, feux si doux qui du haut des cieux ruissellent. Les aigles dans les airs, des éclairs, les moineaux des étincelles. Nous rentrons dans les rayons, nous fuyons dans la clarté notre mère. L'oiseau sort de la forêt et paraît s'évanouir en lumière.
L'air serein, l'amourette, la nichée, l'aube, la chanson, l'appât, occupa notre joie effarouchée. Vivons, chantons, tout est pur dans l'azur, tout est beau dans la lumière. Tout vers son but, jour et nuit, est conduit. Sans se tromper, le fleuve erre.
Toute la campagne rit, un esprit palpite sous chaque feuille. Aimons, murmure une voix, dans les bois, et la fleur veut qu'on l'accueille. Quand l'iris a diapré tout le pré, quand le jour plus tiède augmente, quand le soir luit dans les temps éclatant, quand la verdure est charmante.
Hirondelle, fais ton nid. Le granit t'offre son ombre et ses lierres. Au palais pour tes amours, prends des tours et de la paille aux chaumières. Le nid que l'oiseau bâtit, si petit, est une chose profonde. L'œuf, ôté de la forêt, manquerait à l'équilibre du monde.
Retrouvez l'ensemble des podcasts du Sonolab sur notre site au www.sonolab.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les ondes le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.